Merci Mireille. Effectivement, le cousin Ponce pose le problème de cette œuvre terminale qui oblige à s'interroger sur l'évolution de Balzac dans les dernières années de sa création. Est-ce qu'il y a répétition, approfondissement, épuisement de l'univers romanesque ou renouvellement? Question que je laisse ouverte, évidemment, mais que j'aimerais traiter par le biais de ces petites choses et petites gens, puisque à la lecture domine pour moi l'impression d'un rapetissement, ou si on veut être un peu plus positif, d'une miniaturisation de l'univers balzacien sur tous les plans. Et c'est à travers cette catégorie du petit que j'essaierai d'observer dans le Cousin Ponce une modulation nouvelle de l'esthétique de Balzac, dans le prolongement bien sûr de ce qui existe déjà dans son projet d'ensemble. Alors l'intérêt pour les petites choses n'est pas nouveau chez Balzac, je renvoie d'ailleurs sur ce point à l'article de Katia Huyn dans le volume sur le Cousin Ponce, donc dans le volume des purs dirigé par Aude Deruel, puisqu'elle s'y intéresse au romanesque des riens, ou ce que je reformulerais peut-être comme le romanesque des petits riens, puisque s'il ne s'agit pas du livre sur rien ou d'un roman du néant, mais il s'agit de voir le romanesque des petites choses ou des petits détails. Alors, j'essaierai pour ma part de donner à ce romanesque du petit une signification sociale et politique, et d'articuler petites choses et petites gens. Et puis on verra si ça marche. Puisque c'est à vrai dire le principe du roman balzacien et du roman réaliste du début du 19e siècle, confère à Auerbach, que de proposer ce changement d'échelle à la fois sur le plan social et sur le plan de la poétique et de la thématique. Hein, c'est la représentation sérieuse de sujets traditionnellement bas qui promeut à la fois une classe basse, la bourgeoisie, et des objets petits, le détail qui va permettre de faire l'histoire des mœurs privées, plutôt que une histoire politique voilà, globale. Donc, on connaît bien la place du détail chez Balzac, le détail significatif notamment, ou l'élément trivial mais décisif dans l'intrigue. Hein. Bon, on a tous des exemples en tête, la cravate de Lucien au Luxembourg, quand il se rend compte à quel point il est mal habillé, le sucrier d'Eugénie Grandet autour duquel se fait le grand duel avec son père, où se concentre toute la signification de sa vie, les pantoufles de l'abbé Birotteau, qui ressemble beaucoup au cousin Ponce, hein. L'oubli des pantoufles qui lui signale la première catastrophe dans sa vie, bref. Donc tous ces petits détails qui font partie de la poétique balzacienne. J'en donne simplement un exemple dans Le Cousin Ponce, qui est assez, qui se relie très bien à cette optique de mimésis, qui est le vers d'eau de Bossuet, hein, signalé page 373. Gaudissart, s'émerveillant de la bonté de Schmouck, ce féroce parvenu fut touché de cette noblesse et de cette reconnaissance pour une chose de rien aux yeux du monde. Et qui, aux yeux de cet agneau divin, Schmouck, pesait comme le ver d'eau de Bossuet plus que les victoires des conquérants. On voit bien ce système de promotion du bas et du petit. Alors que se passe-t-il lorsque Balzac cherche à renouveler son personnel romanesque, comme c'est le cas dans les dernières œuvres? Puisque je serais peut-être un peu moins négatif qu'Aude sur cet épuisement total de l'univers balzacien, et j'aurais tendance à y voir aussi une promotion d'une nouvelle catégorie de personnages, à savoir, notamment dans Le Cousin Ponce, les petits bourgeois, le petit peuple, bon, une catégorie sociale assez vague, mais disons d'une de voilà bon, des petites gens, ce que j'appelle les petites gens de manière volontairement floue. Alors, j'en traiterai en trois points. Premier point, le rapetissement de l'univers balzacien. Deuxième temps, la collection de curiosités comme un modèle de ces petites choses et de leur signification. Et puis, dans un troisième temps, la manière dont ces petites choses servent de représentation des rapports sociaux. Alors, premier point, le rapetissement de l'univers balzacien qui se produit donc simultanément sur le plan social et sur le plan thématique. Sur le plan social, c'est la promotion de ce milieu de petits bourgeois, de petits peuples, dont on a toute une liste de professions sur le modèle des physiologies bien connues, et des professions particulièrement minimes, particulièrement infimes. D'ailleurs, le terme de professions infimes est dans le roman, hein. Concierge, chef d'orchestre de théâtre, caissier, commis au monument funéraire, enfin pas commis, mais représentant de commerce, loueuse de chaises à l'église, etc. Pour reprendre la phrase de la page 227, à Paris, chaque profession a ses omégas. Et on peut dire que le roman se situe entièrement sur le plan de ses omégas. des professions parisiennes. On peut évidemment relier ça à l'impact des mystères de Paris, probablement, notamment l'immeuble de la rue Vieille du Temple, où Rodolphe de Gerolstein retrouve tous les acteurs du roman, hein, avec sa concierge, sa voyante, son médecin malhonnête, sa famille pauvre et honnête, bon, qui rappelle à peu près en fait, enfin, toute une série de personnages du cousin Ponce. Il faut signaler les sommes d'argent extrêmement modiques qui sont signalées avec une grande minutie par Balzac, les comptes précis du ménage Schmuck-Ponce qui sont donnés page 100 et 101, ou ceux du ménage Rémoninck, page 162. D'une certaine manière, il y a un transfert du romanesque de Splendeur et misère des courtisanes vers cette catégorie des petits bourgeois. Topinard, à la fin du roman, est dans les troisièmes dessous du théâtre. Ces troisièmes dessous étaient une métaphore pour désigner les forçats, le monde des criminels, dans Splendeur et misère des courtisanes, hein, dans le troisième dessous des sociétés. À ce moment-là, ça parlait des criminels et de la conciergerie. Cette fois-ci, c'est le troisième dessous littéral, celui des pauvres habitants du Marais, des caissiers de théâtre, considérés comme romanesques, donc au même titre que l'était la prison. De même que le jeune avocat sans cause, le jeune médecin sans client sont, page 219, les deux plus grandes expressions du désespoir décent, particulier à la ville de Paris. C'est un poème de tristesse, sombre comme les secrets de la conciergerie. Donc, manière de... réutiliser le romanesque de Splendeur et misère des courtisanes à l'intérieur du cousin Ponce, ou en tout cas de montrer qu'il y a un parallélisme des deux projets. Thématiquement, évidemment, il y a la réduction spatiale dont on a déjà longuement parlé. Psychologiquement, il y a un retrait par rapport aux grands personnages de grands passionnés. On en a également pas mal parlé. Je signale simplement, je crois qu'on ne l'a peut-être pas dit sous cette forme, que dans Le Cousin Ponce, il me semble que toutes les passions sont viables. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de passion mortelle. Les passions, globalement, fonctionnent bien. D'ailleurs, elles ne coûtent pas cher. La collection de Ponce s'acquiert à prix modique. Il mange pour pas grand-chose. Et la gourmandise est le péché capital des moines vertueux, donc un péché capital pour les gens qui n'ont pas vraiment de péché. Donc tout ça est assez petit et assez gagneux-petit, disons. Si bien que Ponce rejoue en mineur d'autres figures balzaciennes, pourtant souvent déjà elles-mêmes présentées comme des dégradations de figures topiques. Hein. C'est une dégradation de Goriot, c'est une dégradation de Chabert, l'homme empire, mais qui au moins gardait un petit lustre militaire. C'est une dégradation surtout des figures d'artistes, et notamment de Lucien, mais Auderuel a déjà développé ce point, hein, que je m'apprêtais à traiter moi aussi à partir du monument funéraire, parce que ce monument est très, très beau, évidemment, puisqu'il rejoint les deux romans contemporains. Donc surtout Lucien, qui est déjà une figure dégradée d'artiste, soumis donc à cette fameuse épopée de la capitalisation de l'esprit, pour reprendre le terme de Lukács, qui nous fait passer donc de Lucien à Ponce, c'est-à-dire de la grande bourgeoisie ou de la noblesse au petit peuple du Marais, du talent de poète indéniable de Lucien et de son originalité propre à un personnage qui n'a plus que le génie de l'admiration et de la compréhension, page 60. C'est-à-dire le génie des gens qui n'ont pas de génie, hein, puisque, page 60, ce génie de l'admiration est une formule assez particulière. Le génie de l'admiration, c'est la seule faculté par laquelle un homme ordinaire devient le frère d'un grand poète. C'est un génie ordinaire. De même, il n'osait pas se livrer à l'originalité qui distingue les artistes. Rien à voir donc avec les jovialités mirobolantes qu'imaginent les bourgeois, page 58. Alors, on pourrait développer tous les riens auxquels Balzac donne de l'importance dans le roman, mais une particularité du roman, c'est la thématisation de cette esthétique du détail dans la collection de Ponce, et ce sera le deuxième point de mon exposé. Donc premièrement, il me semble qu'une chose assez importante, c'est de voir que la collection est une collection de petites choses. La collection apparaît comme une des figures privilégiées du petit dans le texte. C'est le lingot du bonheur en petite monnaie. Et puis, d'après les différentes manières d'en parler des autres personnages, ce sont de petites curiosités, de petites bêtises, selon Madame Camusot, page 81, selon Cécile Camusot, page 120, et même selon Schmuck. Schmuck regardait toutes les petites bêtises de son ami comme un poisson qui aurait reçu un billet d'invitation regarderait une exposition de fleurs au Luxembourg. Et cette petitesse de la collection n'est pas seulement due au regard extérieur, mais aussi à des aspects matériels. Bien sûr, il y a des tableaux, des bronzes, donc des objets assez imposants, mais toute une série de petits objets au statut un peu indécis, miniatures, émaux, tabatières, bijoux, vitraux, hein, des petits vitraux. Chaque carreau des deux croisées de la chambre du bonhomme était un vitrail suisse colorié. Et parmi les tableaux, celui qui est qualifié de sublime, c'est le sublime petit tableau de Metsu, que la Cibo peut transporter sans difficulté. La collection est donc placée du côté de la fragmentation avec son risque de dispersion, mais surtout elle indique une valeur intrinsèque du petit ou un soulignement de ce qui est petit dans la collection comme ayant une valeur propre, une signification propre. Alors, il y a bien sûr un grand discours de justification du petit par, et c'est mon deuxième point, par la grandeur de la signification qui s'y attache. Et c'est le président Camuso qui est chargé, un peu à contre-emploi, de défendre la collection de Ponce en s'offusquant du terme « petite bêtise », donc employé par sa femme et sa fille, dans une diatribe, page 120, où il s'emploie à défendre la collection en recourant au modèle de l'archéologie. « Des petites bêtises !» s'écria le président. « Ces petites bêtises-là, ma chère enfant, sont souvent les seuls témoignages qui nous restent de civilisations disparues. Un pot étrusque, un collier qui valent quelquefois l'un 40, l'autre 50 000 francs, sont des petites bêtises qui nous révèlent la perfection des arts au temps du siège de Troie, en nous démontrant que les étrusques étaient des Troyens réfugiés en Italie. » Donc, valeur de signe, plus précisément d'indice, dont une interprétation permet de dégager un sens plus vaste que leur existence. Du petit sort le grand, c'est toute la poétique balzacienne du signe. Je renvoie aussi à la comédie des signes de Boris Lyon. Effectivement, la collection a une valeur de synecdoque d'une civilisation. L'ancien régime, comme l'éventail indique Madame de Pompadour et Watteau, comme celle de l'antiquaire, donc dans la peau de chagrin. Comme les quatre tableaux principaux qui, d'après Butor, forment une synthèse de la peinture, hein, à la fois la peinture du Nord et la peinture italienne. Camuso peut défendre la collection comme étant une sorte de science encyclopédique. La réunion des connaissances qu'exigent ces petites bêtises, Cécile, reprit-il, est une science qui s'appelle l'archéologie. L'archéologie comprend l'architecture, la sculpture, la peinture, l'orfèvrerie, la céramique, l'ébénisterie, art ou moderne, les dentelles, les tapisseries, enfin toutes les créations du travail humain. Camuso, décidément plus profond qu'il n'en a l'air, envisage une archéologie encyclopédique qui englobe même l'ébénisterie art ou moderne, ce qui me semble assez particulier puisque c'est une archéologie de la modernité, ce qui est tout à fait le projet de Balzac et peut-être moins, la pensée profonde d'un personnage comme Camuso. Ce qui me paraît frappant, c'est que la valorisation archéologique du petit se distingue un peu de sa valorisation esthétique, celle notamment des tableaux. Et la spécificité de la collection de Ponce, c'est d'être une collection de curiosités, plus qu'une collection de tableaux, par opposition à la collection de Magus, qui est vraiment la collection du tableau-man, au sens fort, bien sûr, Ponce a des tableaux aussi. Hein. C'est les curiosités qui font la spécificité de la collection de Ponce par rapport à celle de Magus. Et c'est ce que dit d'ailleurs Popino, modestement, donc petitement, si j'ose dire, à la fin du roman, c'est peut-être un peu une fausse modestie, « Oh, Milord, dit modestement le comte Popino, en fait de tableau, personne ne peut se flatter de rivaliser avec Elimagus. Quant aux curiosités, ma collection est assez belle pour qu'on en parle. » Donc avec une répartition des rôles, d'autant plus que Magus a évidemment soustrait les plus beaux tableaux de la collection. Donc la collection propose une image du roman comme galerie archéologique de curiosités, un peu comme le cabinet des antiques, qui donne son titre à un roman de Balzac. Ponce étant lui-même un de ces antiques, hein, et un de ces objets à valeur archéologique, comme il est dit à l'incipit. Un objet à valeur archéologique qui demande l'attention analytique des connaisseurs en flânerie, ce terme de connaisseur étant lui-même, désignant lui-même les collectionneurs. Et on retrouve la même apologie du petit comme signe du grand dans le traité d'occultisme que Jacques-David Ebguy interprète à juste titre comme un passage métalittéraire. Je cite « Les moindres accidents, les plus futiles, y sont subordonnés. » Donc les grandes choses, les grands desseins, les grandes pensées s'y reflètent nécessairement dans les plus petites actions. Donc le petit reflète le grand, c'est pourquoi la faculté de déduction fit Cuvier si grand, toujours dans le même chapitre sur le traité sur les sciences occultes. Cuvier, modèle traditionnel de Balzac depuis la peau de chagrin. Balzac considère l'occultisme comme un principe unifiant des domaines disparates, mais qui ont tous en commun d'essayer de trouver une signification dans le minuscule et je dirais même l'imperceptible. Et c'est peut-être là où il y a une inflexion, disons un changement d'échelle encore plus poussé que dans d'autres romans de Balzac. Donc, dans ce chapitre, Balzac cite la chronologie, la physiognomonie, la névrologie, donc science de l'analyse des détails, mais aussi la photographie comme captation d'un objet invisible dans l'air, qui tient un peu du simulacre de Lucrèce, hein, de cette poussière d'atomes qui se dégage des corps, poussière d'atomes imperceptible, et qui est également mise en rapport avec la connaissance sociale ou sociologique ou pré-sociologique. La plupart des observateurs de la nature sociale et parisienne peuvent dire, écrit Balzac, la profession d'un passant en le voyant venir, ce qui est exactement le programme de la littérature panoramique. Cela dit, la collection de Pons est une modulation plus modeste de ce projet, me semble-t-il, et il n'est pas anodin que le thème soit défendu par un imbécile, Camusot, qui y met un peu trop d'emphase. Et le narrateur le signale, tel était le genre de plaisanterie du gros petit président. Il procédait avec sa femme et sa fille par de lourdes ironies. Donc il y faudrait peut-être un peu plus de finesse et un peu moins de grandiloquence, de grandeur justement, et peut-être pas cette lourdeur démonstrative à la Cuvier qui veut à tout prix voir des preuves dans le moindre bijou étrusque. Donc s'il est vrai que la comparaison de la peinture à un paraphe, que l'insistance sur la signature, page 86, page 89, assimile la collection à une écriture qui permettrait donc de la lire et de l'enchaîner dans un système de connaissances, il me semble que ces choses signalent surtout la finesse de l'observation de Pons, capable de voir les petits détails. Son attention aux détails, et le détail de la signature en particulier, est un détail tout particulièrement intéressant, puisque c'est à la fois l'inscription du sujet artistique de l'auteur et l'endroit où va se décider l'attribution de la valeur d'échange de l'objet, puisque selon la signature, évidemment, l'objet va valoir plus ou moins. C'est donc ce qui va décider si l'objet est quelque chose qui a une valeur ou n'est rien, ou est un rien, est un petit rien, est un bibelot ou une petite bêtise. L'attention aux détails, par exemple, est signalée par le tout petit rubis, page 90, que Pons décrasse tout au bout de l'éventail. Donc c'est la même finesse qu'on retrouve en fait dans l'ensemble des caractéristiques de Pons, qu'on retrouve dans sa gourmandise, avec sa gueule fine, page 63. Cette sensibilité esthétique est apparentée à sa sensibilité donc organique, gustative et affective, sa capacité à trouver, page 70, une signifiance psychique au rien de la création, et bien sûr avec sa sensibilité organique et psychique à la moindre contrariété, signalée par la métaphore du grain de sable, page 72. Alors cette métaphore du grain de sable est justement ce qui indique la vulnérabilité du personnage, c'est ce qui m'amène à ma troisième partie, sur le plan politique sous lequel on pourrait envisager l'œuvre. En effet, premier point... La métaphore du grain de sable, hein, désigne d'abord ces petites contrariétés, ces petits éléments qui sont invisibles pour la société contemporaine qui n'a plus qu'un rapport mécanique au monde, donc telle une locomotive qui brûle les grains de sable sur ses rails, par opposition à la sensibilité organique de Pons qui perçoit le grain, disons, de la réalité. Mais la métaphore est également utilisée dans un autre sens, qui est celui de la vulnérabilité de ceux qui ne sont rien par rapport à ceux qui sont quelque chose, ou de ceux qui n'ont rien par rapport à ceux qui ont quelque chose. Ainsi, page 166, Pons déplore « cette société qui roule sur moi comme un tombereau sur un œuf ». Et Pons est devenu à ce moment-là le grain sous la locomotive. Les lecteurs du Père Goriot reconnaissent l'image de l'incipit, le char de la civilisation, semblable à celui de l'idole de Juggernaut, à peine retardé par un cœur moins facile à broyer que les autres et qui enraie sa roue, la brisait bientôt et continue sa marche glorieuse. Ainsi ferez-vous, vous qui tenez ce livre d'une main blanche, vous qui vous enfoncez dans un moelleux fauteuil en vous disant « peut-être cela va-t-il m'amuser ». Ouais, on retrouve d'ailleurs l'amusement de Madame Camusot vis-à-vis de la collection de Pons. Alors cette crainte d'être écrasée par la locomotive ou la voiture ou le char de la civilisation selon les époques d'écriture est en fait le lot commun des petites gens et il est repris par Madame Cibot. C'est ce qu'elle dit à Fraisier, page 236. Mais le bonhomme a ses héritiers en horreur. Il me répète que ces gens-là l'ont écrasé comme un œuf qui se trouverait sous un tombereau. Donc elle se souvient très bien de la phrase de Ponce. Et Fraisier lui répond immédiatement « Voulez-vous être broyé ainsi ?» Donc la Cibot se retrouve dans la même situation que Ponce. Hein. Autre variante de l'image du gravier, dans le chapitre sur le traité des sciences occultes, il y a une grande métaphore filée sur les cailloux, les diamants, les charbons, page 177. Les gens du peuple étant comparés à des cailloux roulés dans les torrents de la misère. Donc, le peuple des petits cailloux ou des petits grains de sable comparé au grand mouvement massif de la civilisation. À cela, j'opposerais la phrase de Fraisier qui, page 364, à la sauvage qui lui décrit Topinard comme un rien du tout, lui répond « Il n'y a pas de rien du tout en affaire », ce qui pourrait être une formule de la poétique de Balzac. Il n'y a pas de rien du tout. Et la représentation balzacienne des rapports sociaux va s'efforcer de représenter, disons, un grain fin de la société, ou disons une échelle plus fine de la structuration sociale. Alors je voudrais m'attarder notamment sur le meurtre très imaginatif, commenté par Christelle tout à l'heure, sur le meurtre très imaginatif de Cibot par Rémoninck, au moyen de l'oxyde de cuivre ajouté en quantité imperceptible dans la tisane de son rival, qui est une forme originale de l'idée balzacienne des petites causes produisant de grands effets. Je cite la vieille fille, entre autres. Ces petites choses décident de la fortune des hommes comme de celle des empires. Alors cette fois, l'idée est poussée plus loin, jusqu'à l'idée très romanesque d'une imperceptible dose de poison, imperceptible au sens le plus strict, puisque c'est le génial principe de l'homéopathie criminelle, que je trouve absolument fascinant. Très romanesque et en même temps tout à fait, je pense, sérieux quant à la représentation que Balzac se fait des rapports sociaux. Cette légère addition de cuivre chargé de son oxyde, communément appelé vert de gris, introduisit secrètement un principe délétère dans la tisane bienfaisante, mais en proportion homéopathique, ce qui fit des ravages incalculables. Donc, selon le principe de l'homéopathique, une toute petite dose suffit à produire de très grands effets. Alors, faut-il y voir une ironie vis-à-vis de la tirade favorable à l'homéopathie dans les mystères de Paris ? Peut-être, peut-être pas, mais je livre quand même ce rapprochement. Mais surtout, c'est un doublet symbolique du crime moral dont Ponce est simultanément victime, hein, le poison microscopique du grain de sable moral qui s'introduit dans sa vie. C'est aussi... une anticipation, une préfiguration de la différence imperceptible entre l'eau et le vitriol qui va ensuite se retourner contre Rémoninck dans un principe encore plus homéopathique d'une certaine manière, puisque là, il n'y a même plus de différence visible en quelque sorte. Hein, c'est un, bon. Donc, la rondelle que trempe Rémoninck est d'ailleurs ronde comme une pièce de 100 sous. Cette pièce qui, ailleurs dans le roman, hein, est tapis dans toutes les consciences et roule dans toutes les phrases de la société de la monarchie de Juillet. C'est ainsi toute la vie sociale du régime de Juillet qui est un empoisonnement moral. Alors, dans un deuxième temps de ce... dans un troisième temps, peut-être d'ailleurs, à ce stade, de cette dernière partie, je voudrais voir comment cette représentation de cette homéopathie criminelle va de pair avec une conception de la différence sociale qui essaye d'être... moléculaire plutôt que molaire, pour reprendre un couple deleuzien que j'utilise très librement. J'avais un peu envie d'appeler cette communication « pour un Balzac moléculaire ». Et puis je me suis abstenu. L'humour noir de la situation tient à ce que Poulain est incapable, malgré ses soupçons, de déceler le meurtre. Le docteur Poulain se creusa la tête en apercevant l'effet de cette décoction, car il était assez savant pour reconnaître l'action d'un agent destructeur. Il emporta la tisane et il en opéra l'analyse lui-même, mais il n'y trouva rien. Alors c'est la défaite de l'analyse des connaisseurs dont l'incipit donnait un modèle. Donc même l'analyse ne trouve rien, pour la bonne raison que ce jour-là, Rémoninck n'a rien mis dedans. Le docteur Poulain s'en tira vis-à-vis de lui-même et de la science, en supposant que par suite d'une vie sédentaire, dans une loge humide, le sang de ce tailleur accroupi sur une table devant cette fenêtre grillagée avait pu se décomposer faute d'exercice, et surtout à la perpétuelle aspiration des émanations d'un ruisseau fétide. « Quelle est donc la maladie de mon pauvre Cibot ?» avait demandé la portière au docteur Poulain. « Ma chère madame Cibot, répondit le docteur, il meurt de la maladie des portiers. » Et alors, cette maladie des portiers est évidemment une imagination du docteur Poulain pour s'en sortir. Et c'est assez intéressant de voir qu'on passe d'une action moléculaire, hein, d'une action imperceptible de petite quantité, celle de cette homéopathie criminelle, à une sorte de grosse explication à l'échelle sociale, une interprétation molaire, donc grossière, factice, la maladie des portiers, qui est une sorte de généralisation misérabiliste, qui fait manquer à Poulain l'idée fixe de Rémonin, qui est en fait la véritable cause du meurtre. Donc Poulain, d'une certaine manière, s'en tient à une explication au rang des grandes masses sociales, plutôt que d'aller au rang des, disons, à l'échelle des petites confrontations d'individus. Voilà, alors ce qui m'intéresse, c'est de voir que cette construction moléculaire, elle se voit dans le schéma actentiel de l'intrigue, et heureusement, comme Jacques David Ebguy en a parlé également hier, je pense que je peux passer assez vite, l'argent s'infiltre en fait dans la texture fine des rapports sociaux, et il me semble que l'organisation du cousin Ponce, l'organisation actentielle du cousin Ponce, renonce, ou disons, compense ou complète l'organisation antagonique Ponce contre les Camusot, la grande organisation binaire en opposition sociale, donc que le roman la complète par un schéma de réseau avec une intrigue par entrelacement plus feuilletonesque de petites alliances. Le modèle de l'intrigue étant alors une chaîne d'alliances qui sont tout autant de subordinations, chacun recrutant le suivant en se plaçant sous ses ordres. Mais Jacques David a dit cela hier, Rémoninck a besoin de la Cibot pour pénétrer chez Ponce, et c'est la Cibot qui finit par le mettre au pas. Elle-même fait appel à Poulain, qui, sentant, c'est la citation qui était donnée tout à l'heure, sentant son cheveu s'enrouler sur la corne du diable, a une idée plus diabolique encore, donc d'une certaine recrute la Cibot en l'envoyant chez Fraisier. Fraisier, à son tour, étant recruté par la Cibot, la recrutant à son tour et la matant. Lui-même, enfin, se mettant au service des Camusot. Donc une chaîne de subordination où on a plusieurs schémas actentiels où chaque adjuvant devient le sujet, hein, et se fait du sujet de l'épisode précédent l'adjuvant de sa propre quête. Donc avec un réseau, une sorte de ligne de prélèvement où il s'agit pour chacun d'eux de faire sa pelote. Expression qui vient page 209 et page 245, c'est-à-dire d'accumuler de légers bénéfices, page 162, sur un mourant dont le destin est déjà joué et dont il va s'agir essentiellement de le garder en vie assez longtemps pour pouvoir en tirer le maximum. Donc voilà le récit d'un monde sous hégémonie bourgeoise où... les grandes oppositions sont en quelque sorte monnayées en petites différences et en petites alliances hétéroclites, mais organisées par une idée fixe, uniforme, d'ascension sociale, sur fond de frustration généralisée. Sur fond de frustration généralisée, puisque, en définitive, tout le monde est pauvre dans le cousin Ponce, même les riches, puisque même les Camusot, et d'ailleurs on en parlait tout à l'heure avec Michel Lichelet, même les Camusot ne peuvent pas être tout à fait tenus pour un pôle de la richesse ou du grand capital, puisque eux-mêmes se sentent toujours en train de courir après la richesse. Donc il me semble que ça se retrouve dans ce schéma actentiel organisé autour des petites relations.